Émeute populaire à Éphèse, la fraction du pain. Comme nous l'avons dit, Paul avait achevé ses travaux à Éphèse et l'on peut dire qu'il avait terminé son ministère et son activité comme évangéliste et missionnaire. Paul ne cessa sans doute pas de travailler pour le Seigneur, et bien que nous sachions peu de choses par les Écritures des dernières années de sa vie, ni rien de sa mort, nous pouvons être sûrs que, jusqu'à son dernier jour, libre ou dans les chaînes, il glorifia le Seigneur Jésus et rendit témoignage à son nom. Mais le livre des Actes ne nous le montre plus, comme précédemment, allant de lieu en lieu évangéliser les Juifs et les païens, là où le nom du Seigneur n'était pas connu. Lorsqu'on construit un bâtiment, on commence par établir des fondations solides. L'assemblée de Dieu est comparée à un édifice, et Paul, partout où il avait été, en avait posé le fondement, le seul vrai et solide fondement, c'est-à-dire Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, versets 10 et 11.
Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, et un autre édifie dessus, et que chacun considère comment il édifie dessus. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ.
L'Église était fondée. En une quantité de lieux, des assemblées locales furent établies, et maintenant le cher serviteur de Dieu allait être appelé à glorifier son Seigneur d'une autre manière. Paul se proposait, en quittant Éphèse, de passer par la Macédoine et l'Achaïe, afin d'y visiter les assemblées. Ensuite, il voulait aller à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Ne pensons pas qu'il s'agisse ici de ce que l'on nomme ainsi maintenant. Nulle part dans le Nouveau Testament, nous ne voyons que l'Esprit Saint ait établi des fêtes pour les chrétiens. Celles que l'on célèbre dans la chrétienté sont des institutions purement humaines. La Pentecôte, pour laquelle Paul désirait être à Jérusalem, était l'une des trois grandes fêtes juives que l'Éternel lui-même avait instituées pour rassembler son peuple autour de lui. Deutéronome 16, verset 16.
Trois fois l'an, tout mâle d'entre vous paraîtra devant l'Éternel ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi, à la fête des pains sans levain, et à la fête des semaines, et à la fête des tabernacles, et on ne paraîtra pas devant l'Éternel à vide.
Aussi longtemps que le temple subsista, les Juifs célébrèrent ces fêtes, et dans ces occasions ils venaient en foule à Jérusalem. Paul, qui aimait sa nation, pensait sans doute pouvoir profiter de ce grand concours de monde pour annoncer l'Évangile à ses frères. Il avait encore une autre pensée. Après cela, disait-il en parlant de sa visite à Jérusalem, il faut que je voie Rome aussi. Il vit Rome, en effet, mais autrement qu'il ne l'avait pensé. Il y alla comme prisonnier pour le Seigneur. Un dernier fait qui se passa à Éphèse nous est encore raconté. Satan est comparé à un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. 1 Pierre 5, verset 8.
Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer.
Il déploie une activité incessante contre les saints et contre les ouvriers du Seigneur, et s'efforce, par tous les moyens possibles, d'entraver l'œuvre de ceux-ci, et même de les faire périr, s'il le peut. C'est ce qu'il tenta à Éphèse avant le départ de Paul. Dans cette ville d'Éphèse, comme nous l'avons dit, se trouvait un magnifique temple dédié à la fausse divinité Artémis ou Diane. Nombre d'ouvriers étaient occupés à en faire des copies en argent qui se vendaient avec un grand profit. Un certain Démétrius, qui faisait le commerce de ces objets de superstition, voyant le nombre des chrétiens s'augmenter beaucoup, comprit que c'était la ruine de son industrie et de ses gains. Il assembla donc tous les artisans qui travaillaient à ces ouvrages et leur dit « Ô homme, vous savez que notre bien-être vient de ce travail, et vous voyez et apprenez que non seulement à Éphèse, mais presque par toute l'Asie, ce Paul, usant de persuasion, a détourné une grande foule, disant que ceux-là ne sont pas des dieux qui sont faits de main. Quel beau témoignage ce païen rendait à l'activité de Paul et au résultat de ses travaux. Démétrius ajoutait, « Non seulement il y a du danger pour nous que cette partie, leur industrie, ne tombe en discrédit, mais aussi que le temple de la grande déesse Diane ne soit plus rien estimé. » On voit avec quelle habileté il faisait appel à l'amour du gain et à la superstition, ces grands mobiles du cœur de l'homme. Son discours produisit son effet. La foule, en colère, se souleva en criant « Grande est la Diane des Éphésiens !» Tous se précipitèrent dans le théâtre, vaste enceinte découverte où se donnaient les jeux publics et où se tenaient les assemblées populaires. Ils entraînaient avec eux Gaius et Aristarque, compagnons de voyage de Paul. Celui-ci voulait se présenter devant le peuple, espérant sans doute profiter de la circonstance pour annoncer l'Évangile, car ainsi qu'il le disait, sa vie ne lui était point précieuse, pourvu qu'il servît son Seigneur. Mais les disciples, craignant pour lui, ne voulurent pas le laisser aller. Quelques-uns même des magistrats, hommes riches et influents qui étaient ses amis, le firent prier de ne pas s'aventurer dans ce tumulte. Paul céda à leur prière. Les Juifs, de leur côté, craignant d'être confondus avec les chrétiens, poussaient en avant un certain Alexandre afin qu'il parlât au peuple. Mais celui-ci, ne faisant aucune distinction entre Juifs et chrétiens, dès qu'il eut reconnu la nationalité d'Alexandre, cria plus fortement « Grande est la Diane des Éphésiens !» Durant près de 2 heures, ces cris se firent entendre dans cette assemblée tumultueuse. C'est ainsi que se soulève l'orage des passions humaines sous l'action du prince de ce monde qui conduit les hommes dans leur aveuglement pour les faire servir à ses fins. Un grand nombre de ceux qui étaient là ne savaient même pas pourquoi ils étaient assemblés. Qui peut seul calmer ces flots agités et empêcher ainsi le mal qui en serait résulté pour les disciples et sans doute pour Paul? Dieu, qui commande aux vagues et dit à la mer « Tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas plus loin » Job 38, verset 11. Dieu à qui tout obéit et qui tient les cœurs comme les flots dans les mains de sa puissance. Il emploie pour cela différents moyens. Cette fois, ce fut le secrétaire de la ville, l'homme d'autorité et de bon sens, duquel Dieu se servit pour calmer, par des paroles de sagesse, la foule irritée. Tout s'apaisa ainsi, et, sous l'action de Dieu qui veille sur les siens, le danger fut écarté et la tentative de Satan déjouée. Le tumulte ayant cessé, Paul, accompagné de quelques amis, partit et se rendit en Macédoine, où il fortifia les disciples par ses exhortations, puis il vint en Grèce, où il séjourna 3 mois. De là, il voulait s'embarquer pour aller en Syrie, mais les Juifs lui ayant dressé des embûches, il retourna par la Macédoine et s'embarqua là pour gagner la Troade, contrée de l'Asie où s'élevait autrefois la fameuse ville de Troie. On voit tout ce à quoi le cher serviteur du Seigneur était exposé. Ainsi qu'il le dit, dans les périls de la part de mes compatriotes, dans les périls de la part des nations, 2 Corinthiens 11, verset 26. Il poursuivait sa course, travaillant pour Jésus qu'il aimait. Arrivés en Troade, Paul et ses compagnons y demeurèrent quelques jours. Le premier jour de la semaine était arrivé. Ce jour est celui que nous appelons le dimanche ou le jour du Seigneur. Il ne faut pas le confondre avec le jour du sabbat, qui est le 7e de la semaine, et avec lequel les chrétiens n'ont rien à faire. Le sabbat est le jour que le Seigneur, mis à mort par les méchants, passa dans le tombeau. Le dimanche est le jour glorieux où il ressuscita. C'est le jour des chrétiens. Pour eux, le sabbat n'est plus. En ce premier jour de la semaine donc, les disciples de la Troade étaient rassemblés le soir dans une chambre haute, et Paul et ses amis étaient avec eux. Quel était l'objet de cette réunion? Était-ce pour être avec Paul et pour l'entendre, Non, c'était pour être tous ensemble, Paul comme les autres, avec le Seigneur, rassemblés autour de lui et pour rompre le pain. Nous savons ce que cela signifie. C'est prendre ensemble la scène ou souper du Seigneur que lui-même a instituée avant sa mort. C'est manger le pain qui rappelle son corps donné pour nous et boire le vin qui nous fait souvenir de son sang versé sur la croix pour nous sauver. Et en faisant cela ensemble, les chrétiens affirment qu'ils sont rachetés par Jésus et membres de son corps qui est l'assemblée. En même temps, ils annoncent la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Le Seigneur Jésus a voulu ainsi que ses bien-aimés rachetés se souviennent du grand amour dont il les a aimés et se rappellent qu'ils ont à s'aimer aussi les uns les autres. Quel heureux rassemblement! Quelle fête déjà sur la terre! Elle fait penser à ce moment bienheureux où les saints dans le ciel seront autour de l'agneau immolé et célébreront ses louanges. Paul était parmi ses disciples. C'était sans doute une joie et un bonheur pour eux de le voir et de l'entendre, mais ce n'était pas pour cela qu'ils s'étaient rassemblés. Ils étaient là, nous le répétons, lui et eux, pour être avec le Seigneur et se souvenir de lui. Et, de nos jours, quel doit être le but des chrétiens en se rassemblant le premier jour de la semaine ? N'est-ce pas comme autrefois d'être autour du Seigneur Jésus, à sa table, pour se souvenir de lui et pour adorer ensemble, par le Saint-Esprit, le Père et son Fils bien-aimé ? C'est là le vrai culte. Puissions-nous le célébrer comme les chrétiens de la Troade ?